Bonjour et bienvenue sur le podcast du blog lecarninitial.com, le podcast qui vous accompagne pendant vos sessions de dessin. Je suis Sandre, votre hôte, et j'enseigne le dessin en ligne à quiconque est prêt à oublier tout ce qu'il sait sur cet art, et ce, même si vous pensez n'avoir aucun talent. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner pour recevoir des astuces et conseils de professionnels, comprendre leur psychologie et progresser en dessin autrement. Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast tiré du blog lecarninitial.com. Je suis Sandre et aujourd'hui, je voulais faire un podcast un peu différent et je voulais tout simplement répondre à vos questions. Il y a quelques jours en fait, je vous ai demandé en fait de me poser vos questions directement sur Instagram par stories. Je pense que c'est quelque chose que je vais faire assez souvent maintenant, parce que je trouve que c'est quand même plutôt pas mal de répondre directement à vos questions, puisque ça permettra sûrement d'en aider d'autres, et ça me permet aussi de pas trop me répéter, parce que vous avez souvent le même type d'inquiétude, de problèmes que vous rencontrez, et plutôt que directement d'y répondre en message privé, parce que vous commencez à être de plus en plus nombreux à me parler en message privé, je me suis dit que de faire directement un podcast, ça pourrait être plus intéressant pour tout le monde, et puis au moins vous pouvez l'écouter pendant que vous dessinez. Et je pense que c'est la meilleure solution pour tout le monde. Donc j'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si c'est un type de contenu qui vous plaît ou non, ou si vous préférez les contenus classiques, enfin les podcasts classiques. La plupart des questions, en fait, vu que vous n'avez pas énormément de caractères que vous pouvez écrire dans la réponse à la stories, les questions sont assez courtes, donc ça souvent elles réclament pas énormément de temps, donc je peux pas me permettre de faire une question une réponse. Donc je pense qu'on va essayer de parler de plusieurs choses directement dans une FAQ, on va essayer de traiter de plusieurs sujets. Je sais pas trop ce que ça va donner. Dites-moi du coup, dans tous les cas, si ça vous a plu, comment vous avez trouvé ça. Voyez plus ça comme un appel, et puis moi je vous réponds et j'essaie de répondre à vos questions si vous voulez. Vous savez, comme à la radio, là, quand on voit toujours des personnes qui appellent au standard et qui posent leurs questions en live et la personne y répond. Je trouve ça assez drôle. Peut-être qu'un jour je ferai ça avec de l'audio. Ça vous dirait de parler directement à l'audio ou c'est peut-être mieux le texte? Dites-le moi dans les commentaires, ça peut être drôle. Ok, donc au niveau des questions, on va commencer avec Elfidil. Elfidil qui est une élève, il me semble, de la formation pour apprendre le dessin d'observation. D'ailleurs, cette formation réouvrira en début janvier. Parce que j'en profite pour vous le dire, parce que vous êtes nombreux à m'envoyer des messages pour me demander quand la formation va réouvrir. Je pense que concrètement, elle va ouvrir assez vite, début janvier, histoire qu'on puisse commencer l'année avec des bonnes résolutions. Je pense que ça peut être une bonne idée, donc voilà. Juste comme ça, au moins vous êtes au courant, ce sera sûrement début janvier. Et puis je vous rappelle que si vous n'êtes pas inscrit sur la liste, je vous mettrai un lien dans la description. Vous avez un formulaire que vous pouvez répondre. Et du coup, quand la formation sera à nouveau disponible, vous recevrez un email pour vous prévenir à ce moment-là. Ok, donc revenons à la question. Donc Elfidil qui me pose la question. Vas-tu faire de nouvelles analyses de perso de jeux ou d'autres vidéos de ce genre? Donc je pense que tu parles le character design sur l'analyse des character design d'Overwatch. Oui, c'est prévu. Alors, j'avais dit que je faisais un live pour justement qu'on puisse analyser Amond, le petit hamster là, d'Overwatch. Alors, j'ai malheureusement pas eu le temps, enfin, j'ai pas pris le temps, on va dire plutôt, d'organiser ça. C'était très compliqué en ce moment. J'ai énormément de travail en ce moment à Black Muffin Studio. Du coup, je vais pas pouvoir trop commencer à faire ça. Donc, au final, je pense que je vais sûrement vous faire une analyse de character design de Ashe, le dernier personnage d'Overwatch, qui me semble un peu plus... Donc, je suis plus inspirée sur ce personnage-là que sur Amond. Et encore, je le trouve un petit peu... Comme ça, je le trouve un petit peu léger ou caricatural. Donc, bon, je dis ça, mais souvent, la première lecture des personnages d'Overwatch, c'est ça qui est fort, je trouve. C'est que je pars sur quelques a priori en me disant, oui, bon, peut-être qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur ces personnages-là. J'aurais peut-être pas assez de contenu pour en faire une vidéo entière. Et au final, en fait, quand je commence à analyser un personnage, je me rends compte qu'il y a énormément de choses à dire, en fait. Il y a énormément, énormément de choses à dire. Et je pense que c'est pas relatif qu'à Overwatch. J'ai réfléchi aussi à d'autres types d'analyses que je pouvais faire liées à d'autres jeux vidéo. Et en fait, c'est pas que j'ai pas envie de le faire, au contraire, j'ai très envie de le faire, mais c'est juste que Overwatch, je connais très bien ce jeu parce que j'y joue depuis longtemps, j'y joue pratiquement tous les jours entre midi et deux. Et du coup, je le maîtrise mieux. Et je me vois mal, en fait, faire une vidéo sur un autre jeu vidéo que je maîtriserais moins bien, par définition. Et du coup, qui me demanderait beaucoup plus de travail, en fait. Il y a, par exemple, notamment le jeu Bloodborne que j'adore. Je l'ai terminé, j'aime beaucoup. Enfin, il y a beaucoup de choses à dire sur sa direction artistique. J'aimerais parler plus de la direction artistique dans son ensemble plutôt que de parler du personnage en tant que tel. Enfin, parce qu'en soi, les personnages, il n'y a pas vraiment de personnages définis comme Overwatch, si vous voulez. Mais en même temps, Bloodborne est une œuvre tellement complexe que que si vraiment je veux faire une vidéo comme ça, il faudrait vraiment que je passe énormément de temps pour la faire, énormément de temps à faire des recherches et à croiser mes sources parce que Bloodborne est inspiré de beaucoup d'œuvres, beaucoup d'œuvres gothiques notamment, et je voudrais pas dire des bêtises, donc voilà, il y aurait quand même beaucoup de choses à réfléchir. Donc oui, je pense en refaire. Maintenant, je sais pas quand, parce que ça me demande beaucoup de travail. Mais oui, je pense en refaire sans aucun problème. Dans tous les cas, je vous pousse vraiment à faire de même, en fait, d'essayer d'analyser au maximum les choses, parce que c'est vraiment là qu'on comprend, en fait, à quel point il faudrait ne pas faire les choses de manière, entre gros guillemets, gratuite, dans le sens, tout est justifié, en fait. Tout doit être justifié. En tout cas, si vous voulez créer des œuvres qui marquent les gens qui les regardent, c'est mieux, voilà, d'essayer au maximum de justifier les choses, justifier un choix de couleur, le choix d'une composition, le choix d'un cadrage, le choix des vêtements que la personne porte, le type de végétation même que vous avez dans un décor. Je vois beaucoup, beaucoup de personnes qui font des décors naturels et qui ne s'intéressent pas assez au type de plantes qui sont représentées dans le décor, en fait. Vous n'avez pas les mêmes décors quand vous êtes dans une montagne et quand vous êtes dans la jungle, par exemple. Certaines plantes s'adaptent bien à la lumière, à l'humidité. Un truc bête, voilà, un exemple que j'aime bien. J'aime bien donner, en fait, des exemples comme ça pour que vous compreniez à quel point il faut aller un peu dans le détail, si vous voulez. J'ai une plante chez moi qui s'appelle la Monstera. La Monstera, alors je pense qu'on la voit dans certaines de mes vidéos. On doit aussi la voir dans les vidéos récentes où je suis devant l'ordinateur parce que ça correspond à mon bureau. Bref, cherchez au pire sur internet, Monstera. C'est une espèce de grosse plante tropicale, en fait, avec des énormes feuilles. Et ces feuilles, en fait, quand elles sont pleines, alors en vrai, en fait, quand on pense au Monstera, on voit souvent ces espèces de grandes feuilles vertes, brillantes et trouées, en fait. Vous savez, elles ont des espèces de trous à l'intérieur. Et en fait, ces plantes, elle se trouve pour ne pas avoir trop de lumière, en fait, pour ne pas être cramée, en fait, pour pas que la feuille soit cramée. Et par conséquent, si vous avez un pied de Monstera à un endroit très ensoleillé, vous aurez un pied de Monstera avec des trous. Alors qu'une Monstera qui sera ailleurs, où elle n'aura pas beaucoup de lumière, elle aura des feuilles pleines, elle n'aura pas de trous. Si vous voulez, ce type de plante s'adapte, quoi. Bah, en fait, c'est ça, je trouve ça vraiment intéressant, en fait. C'est des détails, peut-être. Mais ça, dans une illustration, ça fera toute la différence, en fait. Si vous arrivez à montrer que vous savez ce genre de connaissances, alors que vous les connaissiez ou non, vous pouvez peut-être vous être rendu compte de cette information juste par l'observation. Mais en tout cas, si vous arrivez à intégrer ce type d'information dans vos illustrations seront encore plus crédibles, en fait. Je vous dis ça parce que, par exemple, en ce moment, je joue à Red Dead Redemption 2. Peut-être que vous en avez entendu parler, alors peut-être que vous jouez pas aux jeux vidéo, donc vous voyez peut-être pas, mais c'est un énorme gros jeu vidéo qui a coûté extrêmement cher, qui a été créé par les personnes qui ont fait GTA, c'est donc Rockstar, le studio Rockstar. Et en fait, c'est dans l'univers cowboy, vous voyez les westerns, ce genre de trucs. Et en fait, ce jeu, quand on le lance, il est vraiment crédible, en fait. C'est vraiment le mot, je trouve, c'est vraiment crédible. On croit à tout ce qu'on voit autour de nous. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils sont allés vraiment dans le sens du détail, en fait. Et ils ont magnifié la réalité. Parce que le jeu est très réaliste, que ce soit visuellement et en termes de gameplay, la manière dont on joue aux jeux vidéo. Mais il est très très réaliste. Il va vraiment très très loin dans le détail. Il pousse très très loin les choses. Et c'est ce qui en fait sa beauté, en fait. Je trouve que si on peut aller vers cette justification constante, c'est toujours mieux, et c'est là que je trouve ça rattache aux choses qu'on connaît, en fait. Vous parlez le même langage que la personne, puisque on a tous la même réalité, grosso modo. Alors évidemment, on vit pas dans les mêmes cadres, on vit pas au même endroit géographique, on n'a pas vécu les mêmes choses, on n'a pas vu les mêmes images. Mais grosso modo, on a quand même, on vit sur la même planète, quoi. On parle le même langage. Donc, le fait d'essayer au maximum de rendre les choses crédibles en apportant Une attention toute particulière aux détails, sans pour autant être réaliste, hein, vous pouvez très bien adapter ces détails. Hein. Si on revient au Monstera, rien ne vous empêche de faire des Monstera stylisés, mais juste le fait que vous connaissiez ce tout petit détail de Monstera pleine ou trouée fera un peu la différence, si vous voulez. Et c'est ce qui fait aussi que vous pouvez, justement, cette connaissance fait que vous êtes différent par rapport à quelqu'un d'autre. Alors peut-être que vous, les plantes, c'est pas votre truc et que voilà, c'est pas quelque chose qui vous intéresse, mais essayez de vous spécialiser dans quelque chose d'autre. Essayez de vous intéresser à des choses qui vous intéressent, dans un domaine qui vous intéresse, et d'en faire une spécialité, en fait. C'est quelque chose qui est assez important. Bon, à la base, je devais répondre juste à une question, je suis un peu partie un peu plus loin. Bon, c'est pas grave. Sam Cascal qui me pose la question, ton outil de dessin tradi préféré? Alors, mon outil de dessin tradi préféré, ça serait, je pense, l'acrylique. Je ne sais pas si vraiment c'est un outil de dessin, mais j'aime beaucoup l'acrylique parce que ça ressemble beaucoup au digital et que ça nous permet de faire des erreurs, en fait. On peut recouvrir facilement de l'acrylique. On peut mettre du rouge et après, par-dessus, mettre du noir et après, on met du blanc. Alors, évidemment, on n'aura peut-être pas la couleur parfaite, enfin, opaque à 100%. Et encore, je pense que si on met une assez grosse couche, ça marche. Mais j'aime bien le fait de pas avoir peur de faire d'erreurs, en fait. À l'inverse, vous avez l'aquarelle, par exemple, qui réclame justement de ne pas du tout faire d'erreurs. Et je me souviens, quand j'ai commencé à dessiner, enfin peindre avec de l'aquarelle, je l'utilisais comme de la gouache ou de l'acrylique, justement. Je mettais les couches et des couches et des couches. Alors, il faudrait que je vous montre un jour à quoi ça ressemble. C'est très, très brouillon. Bon, c'est un style particulier. Je suis assez attendrie quand je revois mes anciens dessins qui sont ce qu'ils sont, hein, ça date de 10 ans, ces dessins-là. Mais oui, j'aime bien en fait le fait de me dire que je suis quelqu'un qui a du mal à prendre des vraies décisions définitives. Je change assez souvent d'avis et du coup, l'acrylique me va assez bien parce que je peux justement revenir en arrière. Et ça revient un peu à cette histoire de peur de l'échec. J'en avais parlé dans une des vidéos il y a quelques temps, pratiquement un an. C'est cette peur de l'échec qu'on a constamment. Qui vient de l'école, je pense, de l'éducation, où on évite constamment d'échouer, en fait. Un bon élève à l'école, c'est une personne qui ne fait pas de faute, c'est une personne qui n'échoue pas. Et du coup, en fait, on nous a conditionnés à nous dire que l'échec, c'était mal et qu'il fallait pas échouer. Et moi, j'aime pas, en fait, trop cette mentalité-là. J'aime bien le fait de pouvoir me dire que je peux faire ce que je veux et que c'est pas grave, ça n'a pas de très grosses conséquences. Parce que de toute façon, la vie c'est cool et il faut pas avoir peur des conséquences. Et puis de toute façon, c'est en échouant qu'on y arrive. On n'y arrive jamais du premier coup. Donc il faut accepter l'échec pour pouvoir s'améliorer. Ça me fait penser à un ami que j'ai vu la semaine dernière qui est venu au Pays Basque. Et en fait, on a fait du surf un petit peu. Enfin, j'ai fait du surf parce qu'il avait pas de planche, le pauvre. Je lui ai prêté ma planche de surf et il a essayé une fois de prendre une vague et puis l'a arrêté. Parce que il n'y arrivait pas, en fait. Ben oui, parce que c'est très compliqué quand même de se lever sur une planche. Et c'est pas en une seule fois qu'on y arrive, en fait. Il faut échouer pour pouvoir réussir. Et à partir du moment où on accepte ça, je pense qu'on arrive vraiment à évoluer. Et c'est pour ça que j'aime beaucoup l'acrylique. Et c'est d'ailleurs l'outil traditionnel que je recommande à tout le monde qui veut apprendre la peinture. Parce que justement, ça décomplexe au maximum l'échec. Donc voilà. L'acrylique, je dirais, pour mon outil de dessin tradi préféré. Quentin BRRDN qui me pose la question tu dessines depuis quel âge, combien d'années? Alors, je pense que comme beaucoup, pardon, je vous ai tapé contre le mur, j'espère que ça n'a pas fait trop de bruit. Je dessine depuis toute petite, hein, comme beaucoup de personnes. Je ne sais pas trop à quel âge j'ai commencé, mais comme tous les enfants, j'imagine, j'ai dessiné assez tôt. Et alors, ce qui s'est passé, en fait, c'est qu'à partir d'un moment, j'ai arrêté de dessiner parce que je commençais à me comparer à d'autres personnes. En fait, donc j'ai 28 ans, donc je suis née en 90, ça fait sûrement assez vieux pour certains d'entre vous, mais ce qui s'est passé, en fait, c'est que donc je suis née à une époque où on n'avait pas Internet avant nos 10 ans à peu près. Et donc je crois que j'ai dû avoir Internet vers 8-10 ans, quelque chose comme ça, et je me suis retrouvée sur des forums de dessin vers mes 12 ans, peut-être, un truc comme ça. J'ai découvert, voilà, les forums de dessin. Oui, parce qu'il faut imaginer qu'à l'époque, on pouvait pas télécharger une image, c'était un peu long, en fait. Donc, peut-être que maintenant, voilà, on regarde des vidéos sur YouTube, mais à l'époque, c'était compliqué d'avoir une seule image. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'avant cette période-là, je dessinais comme tout le monde. J'étais contente de dessiner, je prenais du plaisir à dessiner. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai découvert qu'il y avait des gens de mon âge sur Internet qui dessinaient, mais carrément mieux que moi, en fait. C'était des dieux du dessin, quoi. Ils avaient ce qu'on appelle du talent, entre gros guillemets, même si c'est pas vraiment un mot que j'aime et dont je ne crois pas trop l'existence. Mais bon, bref, disons qu'ils avaient plus de sensibilité et que tout simplement, ils dessinaient plus que moi, en termes de quantité, quoi. Et quand j'ai découvert ça, en fait, j'ai été complexée. J'ai complètement arrêté de dessiner. Ouais, je sais plus, peut-être peut-être 2 ans, entre 2 et 4 ans, je crois, j'ai arrêté de dessiner. Bon, à cette période-là, en fait, j'ai arrêté de dessiner, mais j'ai appris Photoshop, ce qui a mis du temps, parce qu'à l'époque, il y avait pas de tuto, c'était Photoshop 7, à l'époque, c'était même pas les CC quelque chose. C'était Photoshop 7, ça m'a permis, du coup, de comprendre un peu comment fonctionnait Photoshop, enfin, tous ces trucs-là, en fait. Faut vraiment essayer de se projeter. À l'époque, il y avait vraiment rien sur Internet, hein, donc c'était beaucoup plus compliqué. Mais voilà, et donc petit à petit, après j'ai repris le dessin, et puis après je suis rentrée en école, au lycée, en essayeur appliqué, donc c'est maintenant le STD2A. Et à partir de cette période-là, bon, bah, j'ai commencé à reprendre vraiment le dessin, j'avais une structure, j'avais des personnes qui dessinaient autour de moi, et c'était plus facile. Donc grosso modo, et ben voilà, depuis que je suis toute petite, mais j'ai une grosse période où j'ai arrêté, et je dessine sérieusement depuis 2000. Je sais plus, 2006, je crois. Donc un petit peu plus de 10 ans, quoi. Quelque chose comme ça. Un petit peu plus de 10 ans, mais j'ai commencé assez rapidement à dessiner, enfin, en tout cas vers cette période-là, à dessiner pratiquement 8 heures par jour, tous les jours. Donc au bout d'un moment, c'est vrai que ça s'accumule, quoi. Il y a une loi qui dit, une loi, non, c'est pas une loi, c'est une personne qui a créé une étude pour, en fait, il a analysé les génies de plusieurs types de métiers, donc des violonistes, des sportifs, etc. Et il a essayé de comprendre pourquoi ces personnes-là réussissaient, étaient des experts en leur matière. Et s'est rendu compte que, en fait, ces personnes-là avaient une seule chose en commun, en fait, c'est qu'elles pratiquaient énormément leur art. Et en fait, ils ont, alors je sais pas comment ils ont fait ça, mais ils ont calculé que, grosso modo, on devient un expert en sa matière au bout de 10 000 heures. Donc 10 000 heures, il faudrait savoir enfin, combien ça représente en fait en termes de journée, de 8 heures par exemple. Mais ça fait quand même beaucoup, je pense. Je suis même pas sûre d'avoir atteint les 10 000 heures. Il faudrait vraiment savoir combien ça fait. Je sais pas. Faudrait que je le calcule. Si vous avez le courage de calculer combien ça fait à peu près de jours, à raison de 8 heures par jour, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, ça m'intéresse. Mais voilà, donc si c'est quelque chose qui peut voilà, donner une ordre d'idée, 10 000 heures serait un bon chiffre pour être un expert dans son métier. Après, le but de la plupart d'entre nous n'est pas de devenir un expert, mais déjà de prendre du plaisir et si on peut, d'en vivre. Voilà, je pense que c'est ça la plupart des objectifs des gens qui sont ici. Mais voilà, le côté de 10 000 heures, moi j'aime bien, je sais que les chiffres, ça marche assez bien avec moi. C'est pareil, c'est peut-être le réflexe des jeux vidéo, vous savez, avec le score. Et me dire, ah, mais j'ai peut-être 9 000 sur 10 000, ça doit être assez motivant de se dire qu'il ne me reste plus que 1 000 heures avant d'y arriver. Bref, mais je ne sais vraiment pas combien de temps ça représente, donc pareil, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si vous êtes motivé et que vous êtes fort en maths, chose qui n'est pas du tout mon cas. Ok, donc on arrive à peu près à 18 minutes de podcast, donc je pense que je vais arrêter là. Dans tous les cas, je vous conseille de vous abonner à mon compte Instagram si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez me trouver avec Cendre, Scendre. Je pense que vous me trouvez aussi avec le carnet digital tout collé sûrement. De temps en temps, du coup, en stories, je vous demanderai de me poser des questions directement. Et puis comme ça, au moins, je pourrai y répondre directement en podcast. Idéalement, évidemment, les questions traitent du dessin en général. Et bah évidemment du jeu vidéo ou du métier en fait qui tourne autour du jeu vidéo, plutôt, tant qu'à faire. Je répondrai pas spécialement aux questions personnelles, parce qu'il y en a quelques-unes qui ont posé des questions personnelles, et je pense que ça n'intéresse personne pour l'instant, donc tant qu'à faire, autant faire des questions qui sont relatives au dessin. Dans tous les cas, moi je vous dis à la prochaine fois sur le carnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao! Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Pour rappel, j'aide les artistes et artistes en devenir à reprendre confiance en eux et en leurs dessins. Le tout en les libérant de la pression et l'attente et la comparaison avec autrui. Je les aide à révéler leur véritable identité artistique en les gardant inspirés et motivés avec bienveillance. Pour cela, j'utilise une pédagogie claire et concise, accessible à tous et applicable tout de suite afin qu'ils se reconnectent au véritable plaisir de dessiner régulièrement qu'on a souvent tendance à perdre pendant l'enfance. Si c'est quelque chose qui vous intéresse et que vous voulez travailler avec moi, je vous rappelle que vous avez un lien dans la description.